la Banque Van Breda, vous méritez plus de temps. Plus de temps libre pour écouter le brief pendant que nous nous chargeons activement de votre liberté financière. Banque Van Breda.
Bonjour, nous sommes le jeudi 9 février. Voici notre regard sur l'actualité, l'essentiel pour celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre.
Le brief de l'Écho.
Les comptes à terme retrouvent de l'intérêt auprès des investisseurs avec la hausse des taux. L'encours sous ces comptes d'épargne est passé de 4 à 11 milliards d'euros en 6 mois. Cowboy est à la recherche d'argent frais et cela urge. Le fabricant de vélos électriques bruxellois a 3 mois pour trouver 28 millions d'euros. Les têtes tombent à la FNRStel après le détournement découvert au sein de l'entreprise. 3 administrateurs sont poussés vers la sortie. Laurent Fabry avec vous, bienvenue dans le brief.
Le brief, cette info, dès 7h.
Une news de la nuit pour commencer ce brief. Disney va lancer un programme de licenciement de 7000 postes sur les 190 000 que compte le groupe. La plateforme de streaming Disney Plus a perdu pas mal d'abonnés au dernier trimestre. Il n'est pas question de perte mais de gain sur les comptes à terme et c'est même presque une ruée à laquelle on assiste en ce moment. En 6 mois, les épargnants belges ont transféré une partie de leur argent, soit 7 milliards d'euros de leur compte courant vers des comptes à terme. Cela porte à 11 milliards d'euros l'argent détenu sur ces comptes, ce qui représente le plus haut niveau depuis 2017, des chiffres issus de la Banque nationale. Dans les grandes banques, ce sont les comptes à terme sur une courte échéance qui remportent le plus de succès, mais il est possible que le comportement des épargnants change, sachant que ces dernières semaines, les grandes banques ont relevé les taux d'intérêt de leurs comptes d'épargne. Vincent Van Petegem veut réformer le régime des stock options, c'est-à-dire la distribution d'actions d'entreprise à ses employés en guise de prime ou de rémunération. C'est assez prisé par les sociétés belges. Cette réforme s'inscrit dans l'ensemble des projets de révision des règles fiscales voulus par le ministre des Finances. Alors nous avons pu lire la note qu'il a concoctée sur ce sujet et nous avons demandé à Denis-Emmanuel Philippe, avocat fiscaliste chez Bloomlaw, de nous la commenter. D'abord, le ministre des Finances veut mettre fin à certains abus.
Ce qui heurte le ministre, c'est que certaines entreprises octroient à leurs employés des options sur actions, non pas sur les actions de l'employeur, mais bien sur des actions de sociétés qui n'ont rien à voir avec l'employeur. Je prends un exemple. Dans le cadre du plan de bonus, l'employeur octroie des stock options sur des actions de SICAV ou d'autres sociétés cotées, mais qui n'ont rien à voir avec l'entreprise dans laquelle l'employé travaille. Et donc, le ministre, ce qu'il souhaite faire, c'est de supprimer le régime de faveur dans ces cas-là et de réserver uniquement le régime de faveur aux stock options qui portent sur les actions de l'employeur en tant que tel ou bien d'une société liée à l'employeur.
Et Vincent Van Petegem veut également rendre plus attractif le recours aux stock options.
Ce qu'on veut permettre, c'est en réalité de permettre aux travailleurs de participer aux capitaux propres de leur employeur de manière fiscalement avantageuse. Donc en gros, l'employeur va octroyer des actions dans l'entreprise à ses employés sans que les employés ne soient taxables au moment où ils reçoivent des actions de leur employeur et sans qu'ils ne doivent non plus financer l'acquisition des actions. Donc ils vont recevoir des actions à titre gratuit mais sans devoir payer des impôts. Et ils vont uniquement payer leur impôt à la sortie, donc lorsqu'ils vont revendre les actions de leur employeur avec une plus-value.
On savait le constructeur de vélos électriques bruxellois Cowboy à la recherche d'argent. On en sait maintenant un peu plus sur le montant qu'il attend. L'entreprise espère lever 28 millions d'euros auprès de grands investisseurs, mais elle va aussi lancer la plus grosse opération de crowdfunding qu'ait jamais connue la Belgique. Les financiers doivent apporter 15 millions d'euros selon les plans de Cowboy. Ils peuvent souscrire à des actions jusqu'au 6 mars. Et puis les 13 autres millions doivent être récoltés via un appel public au fonds. Et il y a urgence. 3 mois montre en main pour boucler l'opération. Pour le moment, malgré une consécration à l'international grâce au magazine américain Time qui a couronné son dernier modèle, le fabricant affiche des pertes cumulées de 70 millions d'euros et il continue à brûler beaucoup de cash malgré une réduction sensible de son personnel. La valeur de l'entreprise a chuté de 44% par rapport à la dernière levée de fonds de 80 millions il y a un an. Mais le CEO dit espérer un premier bénéfice annuel en 2024 seulement. Investir dans les obligations vertes, c'est bien, c'est tendance, mais est-ce que c'est rentable? C'est la question que tout le monde se pose devant l'émission de titres de dette annoncée hier par Colruyt. Le groupe de grande distribution lance une campagne de souscription auprès des particuliers. Le but est de financer le renouvellement de sa flotte de véhicules propres, mais aussi d'avancer sur des projets dans les énergies renouvelables et les bâtiments verts. Colruyt espère ainsi récolter entre 125 et 250 millions d'euros. Mais est-ce vraiment intéressant pour les investisseurs de placer leur argent dans cette émission obligataire? Philippe Gallois, l'un de nos spécialistes des marchés financiers, répond à la question.
Quand on regarde ce que propose Colruyt, le taux d'intérêt proposé, sur papier, il est élevé, 4,25% brut, mais Colruyt émet cette obligation, ce qu'on appelle au-dessus du pair, ça veut dire au-delà de la valeur faciale de l'obligation, donc ça veut dire qu'on paye quelque part une commission à l'entrée, donc ça veut dire que ce sera déduit quelque part du rendement de l'ensemble de l'obligation. Il y a aussi le précompte mobilier. Donc, au bout du compte, quand on déduit tout ça, on arrive à un rendement net de 2,57% par an pour cette obligation Colruyt. Quand on regarde notamment dans des obligations de bonne qualité, on peut voir qu'on peut acheter actuellement sur le marché secondaire, c'est-à-dire là où s'échangent les obligations déjà mises dans le passé, des obligations de l'État belge qui arrivent à échéance en 2027, donc c'est même un petit peu avant l'échéance de l'obligation de Colruyt. Et cette obligation de l'État belge, elle offre un rendement net qui est de 2,6%.
Chaque année, c'est le rendez-vous de tous ceux qui veulent s'essayer à l'investissement. Le rallye boursier organisé par l'Écho a rassemblé pour cette édition 2022-2023 plus de 26 000 participants. Alors nous avons passé au crible tout leur portefeuille et voici ce qu'on retient. D'abord, qu'à l'issue de la compétition qui s'est terminée il y a une dizaine de jours, 7 participants sur 10 ont terminé dans le vert. Bien aidé, faut-il le dire, par la remontée des marchés en fin de concours. Le grand gagnant, le bien nommé Lucky, a engrangé une plus-value de 42%. Et l'action la plus achetée était celle de Tesla, plus de 8000 fois. Et les fonds d'investissement spécialisés dans l'or et les métaux précieux ont également été très plébiscités. Mais cette édition 2022-23 du rallye boursier s'est-elle déroulée comme les précédentes, alors que les marchés étaient aussi chahutés? Nous avons posé la question à Salim Nesba, présentateur du podcast Tracker sur les nouveaux investisseurs.
Ça a été une bonne année, on va dire. La performance moyenne de tous les participants actifs, c'est-à-dire les participants qui ont terminé le rallye boursier est de 3,38%. Donc la majorité des participants sont dans le vert, la grande majorité, ils sont presque 18 000. L'année passée, un quart seulement avait réussi pareille performance. Et l'année avant, c'était l'année du Covid, on était dans une situation un petit peu similaire. Les marchés avaient beaucoup remonté. Ce qu'on a quand même constaté cette année, c'est que les gagnants de chaque classement, c'est des gens qui étaient hyper actifs. Donc les règles permettaient de faire 20 ordres par jour. Eh bien, le gagnant de toutes les catégories, il était plus ou moins à 18 ordres par jour. Maintenant, sur le podium, il y en a quand même un qui en 12 opérations, donc il l'a fait juste 12 achats et ventes, eh bien, il est arrivé à un niveau quasi similaire que le premier.
Et nos vedettes ont été plutôt performantes cette année?
Les vedettes, cette année, on a fait le choix de prendre essentiellement que d'anciens invités des podcasts trackers, c'est-à-dire en fait de jeunes investisseurs. Et ils ont quand même bien travaillé. Leur groupe fait mieux que le marché. Donc, ils sont à une performance collective qui dépasse les 8%. Il faut savoir que sur la période du rallye boursier, le CAC 40 de Paris, c'était plus 6,5%. Ici à Bruxelles, on était un petit peu en dessous de 5%. Et eux font plus que 8% de rendement. Et la moyenne globale de toute la compétition, de tous les participants, est autour des 3,4%.
À noter que les participants de cette année pourront continuer à gérer leur portefeuille virtuel sur le long terme, même si le concours est terminé. Trois administrateurs sont poussés vers la sortie à la FNR Stahl. Ils payent les pots cassés de l'affaire de détournement de fonds de 15 millions d'euros découvert chez le fabricant d'armes. C'est la région Wallonne, actionnaire unique de l'entreprise, qui veut les voir partir. Alors d'après nos informations, il s'agit de l'ancien CEO Philippe Classens ainsi que Jean-Sébastien Bell, étiqueté PS, président du conseil d'administration, et Laurent Levaux, étiqueté MR, président du comité d'audit de la FNR Stahl. Si les intéressés refusent de démissionner, eh bien ils y seront contraints, nous précisons. En réaction, Laurent Levaux, contacté hier soir, nous a confié qu'il n'accepterait pas son départ. Ce serait un aveu de culpabilité, selon lui, alors qu'il n'était pas en poste au moment des faits. À la suite de cette affaire, la nouvelle direction, arrivée en 2021, a décidé de lancer des investigations pour comprendre ce qui a pu se passer et puis vérifier surtout qu'il n'y ait pas eu d'autres fraudes en interne. Les femmes semblent encore éprouver des difficultés à concrétiser leurs projets d'entrepreneuriat. Mais combien sont-elles et qu'est-ce qui coince? C'est pour répondre à ces questions et engager une série d'actions qu'il y a près d'un an, le ministre des Indépendants, David Clarinval, a lancé des consultations. Hier, 25 mesures ont été adoptées. Elles ont été signées par toute une série d'acteurs du financement, des spécialistes de l'entrepreneuriat et même le SPF Économie et le cabinet des finances. Mais à quoi ont abouti ces réflexions? Réponse du ministre lui-même, David Clarinval.
Il y a encore donc un déficit important entre le nombre d'entrepreneurs masculins et d'entrepreneurs féminins. Donc oui, il faut pouvoir tendre vers la parité pour qu'il y ait plus de dynamisme encore en Belgique et notamment grâce à la mise en place de plus d'entrepreneurs féminins. Culturellement, c'est important de pouvoir mettre en avant des modèles d'entrepreneuses féminins, des femmes qui ont réussi, et pour apporter une culture de la réussite, c'est vraiment un point important. Mais surtout, un deuxième élément que je trouve très important aussi, c'est le soutien financier, parce qu'on voit que malheureusement, encore aujourd'hui, les taux d'intérêt sont supérieurs pour des projets féminins qu'on veut aussi mettre orientés vers le microcrédit, les projets qui ne seraient pas nécessairement suivis par les banques. Et donc, la plateforme Success Story et automatiquement orienter certains projets refusés vers des microcrédits, pour moi, sont deux mesures phares de ce plan de 25 mesures.
Et pour ne pas perdre de temps, cette série d'actions sera lancée cette année encore, avec même certains points à l'ordre du jour du Parlement dans les tout prochains jours, selon David Clarinval. Alors si cela vous a échappé hier, c'est que vous étiez sur une autre planète. Les Diables Rouges ont un nouveau sélectionneur en la personne de Domenico Tedesco. Je vous invite d'ailleurs à relire l'excellent papier de mon excellent confrère Olivier Samois sur les data coachers, les entraîneurs qui travaillent autant avec leur PC qu'avec leurs jambes. Tedesco en est le meilleur exemple. Bonne lecture donc et à demain.
Vous méritez plus de passion. Vous méritez plus d'anticipation. Vous méritez plus d'anticipation de la part de votre partenaire patrimonial pour que vous puissiez toujours rester serein, même quand la bourse s'enflamme. Vous méritez également plus de Bank Van Breda pour votre vie professionnelle et privée. Bank Van Breda, réservée aux entrepreneurs et aux professions libérales.